On se connaît pas, mais on se connaît. Enfin, je sais pas. Moi, je vous connais de loin. J'ai pas vu. Je me suis un peu perdu en venant parce que votre clocher, il n'est pas trop visible de loin. Néanmoins, on a tendance à fréquenter le Château Blanc. Il y a certains Coréens qui ont tendance à nous fréquenter aussi, à Hénin Beaumont. Tout ça, ça crée des liens, hein. Et ça crée des liens par intermédiaire, hein. Et puis je crois que c'est Gérane qui a fait l'intermédiaire entre nous un peu, voilà. Donc on se connaît, on entend parler de vous de temps en temps, voilà. Et puis à Hénin, on est tous pauvres et riches. On a une richesse, c'est qu'on a plusieurs prédicateurs maison. Donc on peut se permettre divaguer sans trop causer trop de préjudice à la communauté d'origine. Alors voilà, Seigneur, merci, parce que c'est la communion des saints, c'est une chose qui est réelle, Seigneur. C'est vrai que la communion, c'est toujours du concret. Si on est en communion, c'est parce qu'il y a des liens, c'est parce qu'il se passe des choses, c'est parce qu'il y a des choses qui nous sont communes. Mais la communion des saints, c'est aussi à cause de l'amour du Christ. Et l'amour du Christ est une réalité qui nous unit. Et Seigneur, nous voulons nous prévaloir, Seigneur, de non pas seulement de, comment dire, des choses que j'ai dites précédemment, mais nous prévaloir de toi-même, de ton amour pour nous, pour te dire: viens, Seigneur Jésus, viens édifier ton Église, viens créer la communion, viens nous parler, Seigneur. C'est ta parole, ce n'est pas la mienne. Et c'est les oreilles du cœur, c'est les oreilles que tu mets dans notre cœur. Ce n'est pas seulement nos oreilles qui peuvent être réceptives à ta parole. Seigneur Jésus, viens. Amen. J'ai eu à cœur, je vous propose, un discours en deux parties. Une première partie enseignement, puis une deuxième partie plutôt exhortation. Vous savez, l'enseignement, c'est un peu le squelette, et puis l'exhortation, c'est la chair autour. Il faut des deux, hein. La chair, le squelette, c'est pas très exaltant en soi-même, mais s'il n'y avait pas le squelette à l'intérieur, on ne ferait pas grand-chose. Il faut le contenant, le récipient, et ce qu'il y a dedans. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Mais s'il n'y avait pas le récipient, on serait bien embêté. C'est pour ça qu'il peut faire, ça siffle, hein. Il faut faire un petit peu de théologie de temps en temps pour avoir le squelette. Et moi, je vous propose de commencer par une petite réflexion sur la notion d'alliance. L'alliance, c'est une notion centrale. Moi, j'ai dit un jour, si je voulais résumer la Bible en un mot, à quel mot vous choisiriez? Vous choisiriez peut-être amour, je ne sais pas. Moi, je choisirais le mot alliance. C'est ça ce que ça veut dire, Ancien Testament et Nouveau Testament. Vous savez ça, hein? Testament, c'est un mot, comme il faut se méfier des mots, les mots changent de sens avec le temps. Un testament, ça voulait dire un contrat écrit à l'origine. Et la Bible est le livre des alliances entre Dieu et les hommes, qui sont en forme de contrat. Un contrat dans lequel les deux parties prennent des engagements. Dieu s'engage envers nous et nous aussi, nous sommes engagés envers Dieu. Il y a beaucoup d'alliances, hein. C'est l'ancienne alliance. Si on est respectueux des Juifs, certains disent la première alliance, parce que l'ancienne alliance, ça pourrait laisser supposer qu'elle est périmée, quoi, en quelque sorte. La première alliance est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Il y en a beaucoup, hein. Dans la Genèse, c'est des alliances avec des personnages. Il y a une alliance avec Adam et Ève, il y a une alliance même avec Caïn, il y a une alliance avec Noé, il y a l'alliance avec Abraham et les patriarches qui viennent après lui. Et puis ensuite, il y a la grande alliance au travers de Moïse entre Dieu et un peuple, plus seulement une personne, mais un peuple, entre Dieu et Israël. Et cette alliance est renouvelée en Jésus-Christ. Je vais prendre l'exemple de Noé, un peu pour caractériser ses alliances, le contenu de ses alliances. Noé, donc, c'est le déluge, et c'est après le déluge. Je vais lire au chapitre 8, à partir du verset 20, et puis une partie du chapitre 9. Donc, après le déluge et la sortie de l'arche, Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit une odeur agréable et le Seigneur se dit « Je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez de la crainte et de la terreur à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et à tous les poissons de la mer. Ils vous ont été livrés. Tout ce qui fourmille et qui vit vous servira de nourriture. Comme les végétaux, je vous donne tout cela. Seulement, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. De plus, je réclamerai votre sang pour votre vie, je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque être humain la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui répand le sang de l'être humain, par l'être humain, son sang sera répandu. Car à l'image de Dieu, l'homme a été fait, et vous, soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. » Dieu dit encore à Noé et à ses fils avec lui, « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux sauvages, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux sauvages. J'établis mon alliance avec vous, etc. » Je vais pas lire, je lis un peu plus loin. « Je place mon arc dans la nuée. Il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » Voilà, j'arrête là, parce que je ne vais pas faire une étude biblique, on n'a pas le temps. Mais j'aime bien faire ce genre de choses. Voilà, simplement parce qu'on trouve dans ce récit, qui n'est pas trop long, toutes les caractéristiques des alliances que Dieu fait avec les hommes. Il y en a beaucoup, hein, mais il y a quatre éléments que l'on trouve dans toutes les alliances. On trouve des promesses de Dieu. On trouve des commandements adressés aux hommes. On y trouve un sacrifice ou des sacrifices. Et on y trouve un signe de l'alliance qui est donnée par Dieu. Voyez, j'ai dit une alliance, c'est un contrat. En quelque sorte, un contrat, ça veut dire des engagements réciproques, l'un s'engage à ceci, en contrepartie l'autre s'engage à cela, et puis au bas du contrat, il y a les deux signatures qui authentifient, qui engagent. C'est une première approche, hein, parce qu'il n'y a pas que ça dans les alliances de Dieu. Mais donc, il y a les engagements réciproques. L'engagement réciproque, c'est la promesse de Dieu par laquelle il s'engage. Vous voyez, quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On donne des leçons à Dieu. On dit, est-ce que Seigneur, oh, quand même, ça ne va pas, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, on ne donne pas des leçons à Dieu. Mais Dieu s'est engagé par des promesses. Donc on peut lui rappeler ses promesses. Seigneur, tu as promis, tu t'es engagé. Quand je fais ça, je ne donne pas des leçons à Dieu. Je me situe dans l'alliance. Et moi aussi, en retour, je suis engagé envers Dieu. Il y a des commandements. Vous voyez, chez Noé, ses promesses, c'est qu'il ne détruira plus la terre par le déluge, c'est que le cycle des saisons ne cessera pas, etc. Il y a des promesses de Dieu. En retour, il y a un commandement, c'est principalement l'interdit du meurtre. Hein. Je vous autorise à tuer des animaux pour manger. Mais quand même, vous ne toucherez pas au sang parce que le sang, c'est la vie. Je ne vous donne pas un droit sur la vie. C'est un peu ça que ça veut dire. Et je vous interdis de tuer un être humain. C'est le commandement, ça m'engage devant Dieu. Et puis il y a le sacrifice. Le sacrifice là vient en premier. Et puis le signe. D'un côté, le signe, c'est la signature de Dieu, en l'espèce l'arc-en-ciel. Et le sacrifice que Noé offre à Dieu, c'est la signature de l'homme, au bas du contrat. C'est ce qu'on offre à Dieu. Mais je vais rectifier ça tout de suite. Parce que, si vous remarquez, comment dire, je ne veux pas laisser entendre qu'on soit à égalité avec Dieu. Que, voilà, il y a deux partenaires égaux qui signent un contrat, qui prennent des engagements. C'est pas comme ça. En fait, c'est Dieu qui fournit tout dans l'histoire. C'est Dieu qui donne les commandements. C'est Dieu qui donne la promesse. Et c'est Dieu qui donne les commandements. N'est-ce pas ? C'est Dieu qui donne le signe. Et c'est Dieu qui donne le sacrifice. C'est quelque chose là. Vous savez, toutes les religions du monde ont cette notion de sacrifice. On offre un sacrifice à la divinité pour se réconcilier, pour se concilier la divinité. La Bible, dès l'origine, renverse cette chose-là. Le lieu où c'est le plus clair, c'est, on peut dire, l'histoire du non-sacrifice d'Isaac. Quand Dieu dit à Abraham, tu offres ton fils unique, ton fils, ton unique, celui que tu aimes en sacrifice. Et en fin de compte, ce que Dieu demandait, c'est ça, c'est l'obéissance d'Abraham. Quand Isaac, qui n'était pas un petit enfant, les Juifs disent même qu'il était adulte déjà à cette époque, se rend compte, il dit, bah, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ? Abraham, dans sa foi, dit, Dieu verra le sacrifice, Dieu pourvoira le sacrifice, Dieu va s'occuper du sacrifice. Et effectivement, le sacrifice, ça a été un bélier qui a été donné par Dieu à la place d'Isaac. Vous voyez, la notion de sacrifice dans la Bible, elle est subvertie. C'est Dieu qui donne le sacrifice. En Jésus-Christ, qui donne le sacrifice ? En apparence, peut-être, superficiellement parlant, c'est les hommes qui sacrifient Jésus. Non, il s'offre lui-même en sacrifice pour nos péchés. Voyez, donc l'alliance, elle a ce caractère que on n'a pas de prétention face à Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Tous les éléments de l'alliance viennent de lui. Mais pourtant, il y a quand même une contrepartie. Il y a quand même, nous avons quand même notre part dans l'alliance. Dieu ne fait pas de nous ni des pantins, ni des esclaves. Dieu fait de nous des collaborateurs. C'est l'expression que Paul ose employer. Collaborateurs de Dieu en Christ. Est-ce qu'on est des collaborateurs ? On collabore à ce que Dieu donne. On a une part, c'est Dieu qui a tout donné, mais on a notre part à faire, notre part à fournir. Je ne peux pas parler de tout, je vous assure qu'il m'en coûte de passer sur Genèse 15 et sur Genèse 17 et sur l'histoire d'Abraham, parce que si je vous en parlais, je vous en parlerais trop longtemps. Mais lisez-le vous-même chez vous. Dans Genèse 15, vous voyez Abraham qui présente les sacrifices. Et puis il tombe sur lui un profond sommeil, on dit, une torpeur. C'est un mot qui n'est pas le mot habituel pour le mot sommeil. Et là-dedans, Dieu lui parle. Et là-dedans, Dieu lui change son nom. C'est à ce moment-là que Abraham devient Abraham. À ce moment-là, Dieu le transforme. Il faut comprendre la profondeur de ce que Dieu veut faire avec nous quand il fait alliance avec nous. Ce n'est pas superficiel. Hein ? Si je signe un contrat avec vous, sur tel ou tel sujet, ça engage une partie de ma vie. Ça engage ce qui est écrit dans le contrat, un point c'est tout. Et pour le reste, c'est pas mon affaire, c'est pas votre affaire, etc., chacun chez soi. Mais quand Dieu fait alliance avec nous, il engage notre vie profondément jusqu'à nous transformer, jusqu'à ce que nous soyons plus le même. C'est en ça aussi que l'alliance est un don de Dieu. Parce qu'il fait ce que nous ne pouvons pas faire. Pour entrer dans l'alliance, je ne peux pas, moi. Moi, je suis un pécheur. Moi, je suis en rupture avec Dieu. Moi, je manque de sainteté. Je dis moi, vous, peut-être pas, mais moi, oui. Je manque de sainteté, donc je manque de communion avec Dieu. Donc je suis aveugle et sourd et je ne comprends même pas et je ne vois même pas ce que Dieu veut pour moi. Mais dans l'alliance, il y a cette profondeur qui fait que le Seigneur va changer mon cœur. Il va ouvrir mon cœur à l'alliance. Je vais juste lire deux versets dans Exode 24, versets 7 et 8. Je les ai juste notés. C'est pour passer à l'alliance, quand même, qui est celle principale de l'Ancien Testament. Exode 24, versets 7 à 8. « Il prit, c'est Moïse, il prit le livre de l'Alliance, et le lut au peuple. Ils dirent, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. » Moïse prit le sang, et aspergea le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur toutes ses paroles. » Vous voyez que vous avez les deux éléments, le livre de l'Alliance, les commandements, et le sang de l'Alliance qui est le sacrifice. C'est notre part. Moïse, là, et le peuple d'Israël font face à Dieu ce qui est leur part, c'est-à-dire présenter le sacrifice. Je ne dis pas offrir le sacrifice, peut-être présenter le sacrifice. Et puis, lire et prendre l'engagement de respecter la parole du Seigneur. Je ne résiste pas non plus à ce verset que vous connaissez par cœur, Ésaïe 54, verset 10. « Quand les montagnes s'en iraient, quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi ne s'en ira pas, et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit le Seigneur, qui a compassion de toi. » Parce que ça, c'est une autre merveille des alliances que Dieu fait avec nous. Paul l'a dit autrement dans Timothée. « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » C'est ça la merveille de toute l'histoire de la Bible. C'est l'histoire des alliances entre Dieu et les hommes. C'est aussi l'histoire de l'infidélité des hommes à leur alliance avec Dieu. Et c'est l'histoire de la fidélité de Dieu, coûte que coûte, à ses alliances. Grâce à quoi nous sommes là? Sinon, ça fait longtemps que l'humanité se serait anéantie et perdue dans toutes ses mauvaises voies. Voilà. C'est une merveille, cette notion d'alliance. Jérémie 31, versets 31 à 33. En fait, c'est le passage qui a donné son nom au Nouveau Testament. « Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Nouvelle alliance, Nouveau Testament, c'est de là que ça vient, c'est de ce passage de Jérémie. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître, déclaration du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Déclaration du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. » Déclaration du Seigneur, je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà l'annonce de la nouvelle alliance. Et enfin, et je vous lis une petite série de passages bibliques. Dans le Nouveau Testament, la notion d'alliance vient dans un passage que vous allez reconnaître aussi facilement, qui est tellement central. Il fit de même après la coupe, avec la coupe après le dîner, en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. » Voilà la nouvelle alliance. Vous voyez, c'est une alliance qui m'implique, quoi. Une alliance où tout vient de Dieu, mais en même temps, Dieu attend quelque chose. Il attend de moi une réponse, une réplique. Il m'implique dans ce qu'il fait. Je vous propose de continuer un petit peu dans l'analyse, en quelque sorte. J'ai dit qu'il y avait quatre éléments dans l'alliance. Où trouve-t-on ces quatre éléments dans la nouvelle alliance, dans l'alliance avec Jésus-Christ? On peut en trouver les promesses, par exemple. Quelles sont les promesses du Seigneur? Je vous propose celle-ci. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais aussi, je viens bientôt. Les deux, vous voyez, je suis avec vous tous les jours, ça c'est pour le présent, et c'est aussi pour son règne qui vient, je viens bientôt. On aurait pu dire... Sa promesse, c'est le pardon des péchés et la guérison pour nos vies. Voilà les promesses, voilà les choses dans lesquelles Dieu s'engage quand nous nous engageons dans son alliance. Quels sont les commandements? Ce n'est pas tellement le livre des commandements, l'évangile, mais quand même, il a dit « aimez-vous les uns les autres ». On aurait pu dire aussi « faites de toutes les nations des disciples ». Le commandement de la mission, de l'évangélisation, c'est quand même des choses centrales dans l'évangile. C'est vrai que si on n'a pas un peu d'amour fraternel et qu'on n'a pas à cœur d'évangéliser, on peut se demander si on est vraiment chrétien. Je pense que c'est à ce point-là, parce que ça fait partie des essentiels. La promesse et le commandement, quels sont les signes que Dieu nous donne? Je suis toujours étonné quand les gens hésitent quand on dit ça. Pardon? Ouais, non, c'est pas de ça que je parle. Mais on peut dire, voilà, bravo. Le baptême. Hein. Mais c'est le baptême et la Sainte Cène, hein, essentiellement. Qui sont des signes de quoi? Qui sont des signes de notre entrée dans l'Alliance, de notre adhésion au Christ mort et ressuscité. Parce que les deux parlent de mort et de résurrection. Hein. Je meurs en étant plongé dans l'eau du baptême et je ressuscite. Et en Christ, je communie à la mort du Christ. Mais en même temps, c'est le vin de la nouvelle alliance, du festin des noces de l'agneau. Donc, il annonce la résurrection. Voilà, ce sont les signes. Et où est le sacrifice? Oh là là, là c'est évident que c'est Jésus sur la croix. Mais je dirais, nous sommes une religion sans sacrifice. C'est-à-dire, on ne fait pas de sacrifice, ni d'animaux, ni de quoi que ce soit. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et prenez et mangez, ceci est mon corps. Il y en a beaucoup, les sacrifices. Des sacrifices qui ne sont pas rituels, mais dans lesquels on doit souvent apporter quelque chose. Voilà. Moi, je pense que c'est comme un cadre, cette notion d'alliance. Ces promesses, ces commandements, les signes et les sacrifices. Et c'est comme le cadre dans lequel ça aide beaucoup d'avoir certains cadres de pensée en tête pour savoir où nous en sommes et ce que nous avons à faire. Alors voilà, ça c'était le squelette. Maintenant je vous propose, j'avais essayé, un peu la chair. C'était le récipient et je vous propose le contenu. Cette notion d'alliance, bien sûr l'alliance que Dieu fait avec les hommes, c'est le fondement de tout. Mais parce que c'est le fondement de tout, c'est le fondement de beaucoup d'autres choses. C'est le fondement de toutes les relations humaines. Si je vous dis l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme à son image, c'est quoi la suite? Homme et femme, il les créa. Où est l'image de Dieu? Homme et femme. Dans la relation entre homme et femme. Quelle est l'alliance, les alliances entre nous? Les alliances que l'on peut faire entre personnes humaines, quelle est l'alliance la plus importante, la plus profonde? Évidemment, c'est le mariage. Et c'est une image de Dieu. C'est l'image de Dieu est là. Moi, je dis, la Bible commence par un mariage, parce que quand Dieu crée l'humanité, il l'introduit comme ça, homme et femme, mâle et femelle, même, disent certaines traductions, à juste titre. Et ça se termine par un mariage. L'esprit et l'épouse disent, viens. C'est le mariage du Christ et de l'Église. Et dans l'Ancien Testament, Dieu et le peuple d'Israël, c'est aussi l'époux et l'épouse. Ce n'est pas quelque chose de tellement secondaire que ça. Hein. C'est quelque chose de fondamental. Vous savez, une seule alliance est éternelle, c'est celle que nous faisons avec le Seigneur. Mais, je dis sur terre, une seule alliance est normalement pour la vie. Vous voyez, elle a sa limite. Mais c'est quand même pour la vie, hein, tant qu'on est vivant ensemble, et c'est le mariage, l'alliance entre un homme et une femme. C'est quelque chose de fort, et là aussi, d'abord peut-être tout le monde n'est pas marié, ensuite si on est marié, quelquefois on a été marié, il y a des brissures, quoi, et nous sommes des gens, l'image de Dieu est chez nous altérée, et ça se voit, concrètement, et ça se voit chez chacun d'entre nous. Moi j'ai la chance d'être marié, de n'avoir été marié qu'une fois, et que pour l'instant ça dure, merci, et j'espère, enfin bref, mais quand même, on sait combien il y a de drames, Moi, j'ai une épouse qui est en contact avec beaucoup de gens socialement, et puis on en a discuté récemment, l'autre jour, parce qu'il y a des divorces, parce qu'elle rencontre. Et c'est lourd, c'est une souffrance terrible. Et quand on est face à des gens qui sont en train de vivre cette souffrance, je dis, bon, et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les juger, c'est pas notre propos de juger. Et puis, s'il fallait juger tous les pécheurs, eh ben, j'ai qu'à sortir. Hein. Si heureusement que Dieu m'a pardonné au lieu de me juger, n'est-ce pas? Et donc, il en est de même pour tout le monde. Mais ça n'empêche pas que Dieu a donné des modèles et que je ne suis pas censé brader ces modèles si facilement. Parce qu'il y a d'autres alliances de toutes sortes. Et moi, je pense que de même que l'alliance avec Dieu est un modèle de l'alliance conjugale, qui est l'alliance humaine la plus forte, de même, ce qu'on peut vivre dans un couple entre hommes et femmes est censé nous apprendre à vivre aussi toutes sortes d'autres choses, d'autres relations humaines, qui sont moins engageantes, qui vont moins loin, qui sont moins durables. Je vais vous donner un exemple. J'ai été frappé un jour. Ma femme s'occupe de l'école biblique dans l'église des nains, des enfants. Donc elle s'occupe de l'équipe de moniteurs, une monitrice. Et un jour, elle a dit, parce qu'il y avait un peu de flottement, je n'accepte pas de démission en cours d'année. J'ai bien aimé. Elle en a eu quand même, des démissions en cours d'année. Oui, mais la fois où tu l'avais dit, c'est justement parce qu'il y avait un problème. Bon, c'est vrai, si on s'engage à s'occuper des enfants, on ne s'engage pas pour la vie. Dans les églises, on a tendance à exploiter les gens parce que quand on en tient un qui est d'accord pour faire quelque chose, on ne le lâche plus. Ah, c'est vrai, il faut que les gens puissent se dégager. Les engagements qu'on prend, les alliances qu'on fait, elles ont leurs limites. Ah, ce n'est pas pour la vie. Mais c'est vrai que si on s'engage à enseigner les enfants de l'école biblique, c'est normal de s'engager pour un an. Parce que, une année scolaire. Parce que sinon, quel exemple on donne aux enfants? Ah ben, je m'occupe de vous, puis après, je m'occupe plus de vous. C'est pas normal. Il y a quelque chose de mauvais. Bon, mais si aussi une personne a fait son boulot pendant un an et puis après elle dit, bon, bah, maintenant je souhaite faire autre chose. Et voilà. Chaque alliance a ses limites, des limites différentes qu'il faut savoir respecter dans un sens comme dans l'autre. Faut pas obliger les gens à en faire plus. Mais faut pas non plus, quand on s'engage, qu'on ne respecte pas son engagement. Voyez, si je dis ça, c'est pour vous proposer cette notion d'alliance comme modèle d'une vie d'église. Que chacun et chacune s'interroge pour dire où est mon alliance? Quelle est mon alliance? Quel est mon engagement? Oh, il y a votre alliance avec le Seigneur. Ça, c'est celle-là, elle n'a pas de limite. Celle-là, vous pouvez tout attendre de lui. Nous devons tout attendre de lui et tout lui donner. Mais pour le reste, eh ben voilà, quel est mon engagement vis-à-vis de mon Église? Quel est définissez-le avec le Seigneur, dans la communion avec le Seigneur. Ça aide beaucoup, parce que ça aidera à ne pas s'épuiser, à dire, ben, ouais, ben moi j'ai une limite. Ça aidera peut-être quand j'atteindrai ma limite, c'est-à-dire moi j'ai rendu service, j'ai fait ci, ça fait ça, à ne pas, comment dire, entrer en conflit, mais dire voilà, c'est ma limite, c'est tout, c'est la limite de mon engagement, et je ne fais de reproche à personne, ni pour ce que je fais, ni pour la limite de ce que je fais. Je vais reprendre mon fil là, je suis en train de dévier. Parce que je suis à la chair là. Donc il faut mettre un peu de chair. Et mettre un peu de chair dans l'église, c'est mettre un peu d'amour. Et c'est savoir de quelle manière je dois aimer les autres. Un phénomène aussi de l'alliance. Vous voyez, l'alliance forcément implique plusieurs personnes, par définition. Je ne fais pas alliance tout seul avec moi-même. Je fais alliance avec quelqu'un qui est différent de moi. Il y a une chose à bien comprendre. C'est ce que j'appelle le 1 plus 1 n'est pas égal à 2 de l'Évangile. Bon. Dieu dit, l'homme s'attachera à sa femme, ils formeront une seule chair. Ils ne formeront pas deux individus, ils formeront quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose Parce que le lien humain le plus fort qu'on a, en fait, c'est le lien avec ses parents. Naturellement, c'est comme ça. Notamment le lien avec sa mère. Bon. Et l'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire Dieu dit, quand il y a une alliance entre un homme et une femme, il y a quelque chose de nouveau qui se crée, qui n'existait pas avant et qui est plus fort que les alliances anciennes, qui doit primer. Jésus dit, à mon avis, quelque chose de semblable quand il dit « Si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Si deux, il y a un évangile qui dit deux, se mettent d'accord pour demander quelque chose, en son nom, cela leur sera accordé. Pourquoi deux ? Si vous priez le Seigneur tout seul, est-ce qu'il ne vous écoute pas ? Aussi, certainement. Moi, j'ai entendu de nombreux témoignages, enfin plusieurs en tout cas, de personnes qui ont prié pour quelqu'un d'autre, seul, pendant des années, et qui ont connu des exaucements. La persévérance de leur prière a été honorée. Mais moi, je crois que Jésus nous dit, quand il y en a deux qui s'y mettent ensemble, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Quelque chose d'autre. C'est pas un plus un. Il y a une communion qui se crée et cette communion produit un fruit nouveau. C'est ça la merveille dans laquelle nous sommes appelés à entrer quand nous sommes chrétiens et que nous sommes dans l'Église. Vous devez dire, quelles alliances dois-je nouer ? Avec qui ? Pourquoi faire ? Et s'attendre à ce que de cette alliance naisse une merveille. Voilà. Il n'y a pas d'alliance sans souffrance et sans difficulté. Hélas, nous avons tendance à être de grands enfants qui disent « Ah, je ne supporte pas quand ça ne va pas, etc. » Vous savez, quand on est marié, on a des souffrances. Allez, y a-t-il un vieux couple qui aurait le culot de me dire le contraire ? J'aurais tendance à ne pas vous croire. Peut-être qu'on est un jeune couple, que depuis quelques semaines, on n'a pas encore trop souffert. Bon. Et puis ces souffrances, ça fait tout éclater. Ou alors, eh ben, il se passe quelque chose qui fait que ça n'éclate pas, j'espère. Hein. J'espère qu'on ne vit pas ensemble uniquement par habitude et par résignation, mais qu'il se passe quelque chose de nouveau. Il y a une personne avec qui on est confronté récemment, avec mon épouse, puis il y a un problème quelque part, et c'est une personne célibataire, et puis on est gêné parce qu'on n'ose pas lui dire, notre impression c'est vraiment ça, si seulement elle avait un mari, elle aurait appris à se cogner à quelqu'un. On se cogne. Moi, cette expression m'est venue quand on discutait récemment des problèmes de divorce. J'ose dire ainsi, on se brise. On se brise les uns sur les autres. Il y a un prédicateur, un jour j'ai entendu dire, il dit, les gens qui n'ont jamais été mariés ou qui n'ont jamais eu d'enfants ne pourront jamais atteindre, c'est dur à entendre peut-être, hein, ne pourront jamais atteindre la capacité de communion fraternelle que quand on a vécu ça. On se brise aussi sur ses enfants. On s'y brise, on s'y cogne. Mais ce brisement, il est de quel ordre ? Est-ce qu'il est l'ordre d'une souffrance destructrice ? Alors effectivement, dans ce cas-là, ça ne va pas. Ou est-ce qu'il est l'ordre du sacrifice ? Du sacrifice que Dieu agrée. C'est-à-dire, je donne. Je me donne. Voilà. Je me donne alors que je n'ai pas de quoi donner. Je donne ce qui est impossible à donner. Comme Abraham, on lui dit de donner son fils, son unique, celui qui aime. Non, mais puis quoi encore, n'importe quoi. Il faut tourner le dos dans ce cas-là. Il faut dire c'est scandaleux, c'est inacceptable. Voilà. Mais si on accepte ça, on s'aperçoit qu'en fait, c'est Dieu qui donne et non pas nous. Je ne peux pas donner ma propre chair. Je ne peux pas donner, si mon caractère se brise contre celui de ma femme. Et alors, c'est quoi la solution ? C'est de me briser et de rester brisé. Comment on peut faire ça ? On peut faire ça si l'alliance avec Dieu existe. Et s'il y a réellement un Dieu qui nous induit dans un échange, qui a fait des promesses et qui les respecte. Vous savez la promesse que Dieu m'a faite ? Pour chacun c'est différent, mais moi je lis la Bible et de temps en temps il y a des paroles comme ça qui me tombent dessus. Comme tu en parlais l'autre jour, tu en parlais pour cette église, des paroles que Dieu donne. C'est dans le psaume 118. Quand j'étais jeune, j'étais un peu tourmenté, j'étais en difficulté. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, car l'Éternel est mon soutien. Moi, j'ai reçu comme ça, et c'est comme une promesse de Dieu. Il peut m'arriver ceci et cela, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai ce que le Seigneur a fait. Et c'était quand j'étais jeune, c'était avant qu'on se connaisse, avant que je sois marié. Et j'ai eu intuitivement, je dis, ça vaudra aussi pour ton mariage et pour ta famille. Et moi, c'est la promesse de Dieu. Je ne mourrai pas. Quand je dis mourir, je ne le prends pas au sens strict. Ça veut dire, ce ne sera pas détruit. Mon mariage ne sera pas détruit. Mes enfants ne seront pas détruits. Pourquoi ? À cause du Seigneur. À cause de la promesse de Dieu. Pas à cause du fait que moi, j'ai la capacité de prendre suffisamment en charge les choses et de surmonter moi-même les problèmes. Je ne les ai pas. Mais c'est la promesse de Dieu. Voyez, il y a le sacrifice y est, mais aussi la promesse de Dieu. Que tout ça tournera pas à mal, mais je raconterai ce que le Seigneur a fait. J'aurai l'occasion de dire voilà ce que le Seigneur a fait. Nous, on a 5 enfants, c'est magnifique, hein. Il y en a un qui a des problèmes, quoi. Enfin bon, bref. Je ne mourrai pas, il ne mourra pas, il vivra. Moi, je le dis comme ça. Et je n'ai pas, moi, la solution ni la capacité pour savoir ce qu'il faut faire. Je ne dis pas les choses dans l'ordre, comme d'habitude. Voilà. Je voudrais dire quelque chose sur l'esprit de service aussi. C'est pas bien de se vanter, mais vous en jugerez comme vous voulez. Certains de mes enfants sont allés au collège Agapé à Roubaix. Et puis, ils avaient des cours le samedi. Bon, c'était un peu loin, hein, le samedi matin. Donc, j'allais les conduire le samedi matin. Et puis, pour une matinée, on va pas faire 2 fois l'aller-retour. Hein, donc, j'ai dit, je reste là le samedi matin. Donc, je suis allé voir le directeur du collège. Et j'ai dit, je suis là le samedi matin, je suis à votre service. Si vous avez quelque chose à me faire faire, je viens le samedi matin pendant les heures de cours de mes enfants. Et il m'a répondu ceci. Il m'a répondu, ta démarche est exceptionnelle. J'ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, parce que les gens ne viennent pas proposer leur service. Soyons justes. Quand on demande à quelqu'un dans l'église s'il veut bien rendre un service, souvent, ils disent oui. Souvent, quand même, heureusement, il y a des gens qui acceptent de rendre service. Mais il me l'a dit comme ça, et moi je vous le répète, parce que moi j'ai été un peu choqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fabrique les chrétiens ? C'est quoi l'esprit de service ? Est-ce que Dieu a attendu qu'on lui demande qu'il vienne nous sauver ? Il est venu, hein ? Nos ancêtres à nous, les Gaulois, étaient où ? En train de faire quoi quand Christ est venu pour nous sauver ? Il nous a pas attendu, hein. Et moi, je dis, alors vous voyez, c'est l'avantage de prêcher dans une église où on connaît pas les gens, je sais pas à qui je m'adresse, je vise personne, donc je vise tout le monde. Qu'est-ce que vous fabriquez ? C'est quand la dernière fois que vous êtes venu en disant « je propose mes services ». Il m'a demandé quoi ? De faire la comptabilité. Bon, c'est vrai, ça correspond, j'ai fait des études dans ce sens, pendant un temps j'ai été comptable. Vous croyez que c'est l'idéal de ma vie de faire de la comptabilité ? Rien à cirer, j'ai fait ça, il faut travailler, c'est alimentaire, il faut gagner sa croûte, c'est tout. Eh ben, j'ai fait la comptabilité pendant 2-3 ans du collège Agapé tous les samedis matins. Voilà. C'est ça le service, hein. L'esprit de service. On offre. Vous savez, allez trembler là. Je dites à votre pasteur. Qu'est-ce que je peux faire ? Et trembler, vous savez pas ce qu'il va vous répondre. Mais peut-être on trouvera du bonheur à donner, etc. Hein ? Moi, je vais vous dire ce qui arrive dans ce cas-là. Parce que, étant moi-même l'un des responsables d'église, je vois bien comment ça marche. On repère les gens qui ont l'esprit de service, qui rendent des services sans ramener leurs fraises. Vous savez ce qui arrive au bout d'un temps ? Quand on se dit, voyons, il faudrait quelqu'un qui soit responsable pour ceci, cela. Qui croyez-vous qu'on va voir ? On va les voir, ceux-là. Est-ce que tu ne voudrais pas ? On leur demande comme un service encore. Devenir responsable d'eux. Et c'est ainsi que celui qui s'abaisse sera élevé. Moi, je crois que c'est comme ça que ça doit marcher. Et c'est ceux-là qui finissent responsables. Parce que ceux qui ont l'esprit de service, c'est ceux-là aussi qui peuvent se permettre de demander aux autres de travailler, de rendre des services. C'est ceux-là. Ainsi, celui qui s'élève, qui dit « Ah, moi, je ne veux pas faire ci, parce que moi, je préfère... il faut que je sois devant le micro pour prêcher devant tout le monde. » Voilà, j'y suis, hein, mais bon. Mais ce n'est pas une ambition, un service. Un service, ce n'est pas une prérogative. Un service, ce n'est pas une prérogative qu'on réclame. C'est un don qu'on fait. Mais ce n'est pas non plus un esclavage. Parce que dans l'esprit de service, il y a un vrai bonheur. Il y a un amour, il y a un don, et donc il y a un vrai bonheur. Moi, je me souviens du gars chez nous, alors voilà, il y a la salle, il y a des murs, et puis on se mettait le long des murs, là, pour la Sainte-Seine, là, en rond, puis tout le monde s'appuie sur le mur, c'était un peu sale, les murs, là, sur le côté. Il y a un gars, un jour, il n'a rien demandé à personne, il est venu, il a nettoyé le mur tout le long, là. Voilà. Moi, je regarde ça, oula, toi, je te retiens. C'est l'esprit de service. On admire ça. Et il s'en est pas vanté. Hein. On s'est chargé de lui dire merci après. Pardon ? Il y a peu de gens qui le voient. Oui, oui, c'est vrai. Il y a peu de gens qui le voient. Mais vous voyez, c'est entrer dans l'alliance que de donner ces services. On est dans une culture de consommation. Donc, même pour l'Église, on vient pourquoi ? Pour recevoir quelque chose. On vient pour consommer. On vient, si je viens à l'église parce que ça me profite, puis si ça ne me profite plus, j'y viens plus. Eh bien ça, c'est pas l'alliance. Il y a une génération de ça, il y avait un peu plus de culture d'engagement. Eh bien voilà, ben, à mon avis, les civilisations, notre société, notre civilisation évolue, et puis toutes les évolutions ne sont pas bonnes. Voilà. Le mariage, c'est un problème en partie, c'est ça, hein, c'est d'une culture de l'engagement. Est-ce que je m'engage ? Est-ce que je m'engage ? Je m'engage, ça veut dire après, bon, si je ne respecte pas mes engagements, ça me pose un problème. Je vais là, je me marie parce que celle-là, elle est jolie, elle est sympathique, et puis après, si je la trouve moins sympathique, non, je m'engage, c'est pas la même chose. Et dans l'Église, et quel que soit le genre d'alliance que nous faisons les uns envers les autres, c'est ça, je m'engage, je donne. Servir par amour, de toute façon c'est l'amour qui fait le liant de tout ça. Je vais vous raconter une histoire, parce que pendant un temps, au début j'étais pasteur réformé aussi, et dans une église où il y avait des protestants, il y a plein de protestants mais on ne les voyait jamais au culte, jamais à l'église. Et un jour il y a un enterrement, une vieille dame, et je l'avais déjà vue, cette vieille dame. Et je me suis dit, il n'y aura pas de monde à son enterrement. Parce que elle était désagréable. Ça arrive, hein. Elle était renfermée sur elle-même. Elle n'était pas agréable avec personne. Je lui dis, je vais aller faire son enterrement et puis il n'y aura presque personne. Eh bien, je ne me suis pas trompé. Je suis arrivé là et puis j'ai vu quoi ? J'ai vu une brochette de vieille dame et qui disait, encore une qui s'en va. La prochaine, ce sera moi. Moi, j'ai été saisi. Je me suis dit, mais voilà, il y avait vraiment une dizaine de personnes, des personnes de la même génération qui étaient là en disant encore une qui s'en va. J'ai eu pitié de ces gens-là. Je me suis dit quand même, bon, ben, peut-être, de toute façon, la personne qui est décédée, elle est décédée. Hein, c'est pas pour elle qu'on parle. Hein, si elle était désagréable et pas aimée, elle n'était pas aimée dans le village. Mais il y en avait quelques-unes qui étaient là, qui, au travers de cet enterrement, ils étaient confrontés à leur propre vieillesse, à la perspective de leur propre mort. Et puis moi, j'ai eu de l'amour pour ces vieilles dames. Là, je me suis dit, il faut que je me décarcasse. Il faut que je me décarcasse pour ces personnes. Vous voyez, c'est l'amour qui change tout. C'est pénible, le service. Faire un enterrement pas marrant pour une personne pas marrante, c'est pas marrant. Pas envie. J'ai pas envie, hein, je suis pas... Mais il y a quelque chose qui se dégage. On s'y colle quand même. Par engagement, par esprit de service, et puis voilà qu'il se passe quelque chose de la part du Seigneur. Ça m'est encore arrivé récemment. Vous savez, moi je prêche, je pense que c'est parce que c'est le Seigneur qui m'a demandé ça, d'enseigner, etc. J'ai à cœur la parole de Dieu, mais je doute aussi. des fois, qu'est-ce que je fabrique là? La parole de Dieu, j'en suis pas digne, moi, de cette parole, je n'arrive pas à la cheville de ce que je dois vous raconter et qui est ici là-dedans. Je doute de moi-même, quelquefois je peine à préparer. Et puis récemment, et en plus en ce moment je suis un peu fatigué, bref, ma femme c'est tout ça, je ne suis pas en forme. Ah, ça m'arrache de travailler, etc. Et puis, mais j'arrive au culte, puis je me dis, mais bon, la parole de Dieu d'abord, vous savez, il y a comme une crainte de Dieu, comme un respect, quoi. D'abord, la parole de Dieu, et alors, est-ce qu'elle dépend de mes états d'âme et de mes humeurs? C'est la parole de Dieu, hein. C'est pas moi, hein, que je suis censé apporter. Et puis, je vois les gens autour de moi, je me dis, mais ces gens, ils viennent pour recevoir une parole de Dieu. Donc, j'ai un peu de crainte. Vous voyez, j'ai conscience que je m'inscris dans quelque chose qui est plus grand, qui est plus important que moi et que mes humeurs et que mes états d'âme. Donc, je me fais serviteur de cette parole de Dieu et serviteur, j'espère, des gens qui sont là et qui sont venus pour écouter la parole de Dieu. Voilà, je m'inscris dans une alliance, dans quelque chose qui a été donné, qui a été posé préalablement à moi et à mes péripéties et qui me dépasse et qui suscite chez moi un peu de crainte. La crainte de Dieu, mais vous savez, de même que l'amour de Dieu induit l'amour du prochain, la crainte de Dieu, il y a quelque chose que j'appelle une crainte au sens noble du prochain, des autres. J'ai pas le droit de me moquer des autres. J'ai pas le droit de trop ronchonner. C'est elle qui sait qui me voit ronchonner le plus souvent. J'ai pas le droit de trop ronchonner à cause du respect des autres. Les autres, ils ont le droit de recevoir quelque chose de ma part, de la part de Dieu. Et c'est vrai pour tout, c'est vrai pour tous. Moi, je vous invite à vous interroger chacun, chacune, c'est quoi ma place? Mais vous comprenez, hein, c'est pas c'est quoi ma place, c'est quoi ma place dans cette alliance? À qui dois-je proposer mes services? Qu'est-ce qu'on va me demander? Qui dois-je proposer mes services? À qui vais-je m'associer? Vous savez, si deux sont d'accord pour demander quelque chose, cela leur sera donné. Quand il y a un besoin dans l'Église, quand quelqu'un a un problème, une souffrance, ben peut-être je me sens tellement bien concerné par cette souffrance, je vais prier pour cette personne. Mais quelquefois, il faut se dire, ben voilà, moi cette souffrance de cette personne, ça ne me concerne pas de près spécialement, mais peut-être je dois m'associer. Peut-être je dois m'associer à telle personne qui prie, dire, oh, ok, on va se mettre d'accord pour prier pour telle personne, pour telle situation, pour telle souffrance. Et il y a quelque chose, pas parce que ça m'affecte, souvent on a tendance, on s'occupe des problèmes qui nous affectent, n'est-ce pas? Quand ça me dérange, je me dis, ah, il faut faire quelque chose. Et si ça ne me dérange pas, ben non, je fais partie d'une alliance, nous faisons partie du corps du Christ, nous souffrons avec ceux qui souffrent. Et alors, je ne vais pas, moi j'ai tendance à me tracasser pour trop de choses, donc voilà, ça me fait souffrir peut-être pour rien. Et peut-être je dois me limiter en disant le Seigneur m'appelle à m'occuper de ça. Et puis autre chose, ben, il va appeler quelqu'un d'autre pour autre chose. Mais le Seigneur m'appelle à m'occuper de quelque chose. Le Seigneur m'appelle à communier à quelque chose. La comptabilité du collège Agapé, ce n'était pas mon problème. Je ne fais pas partie du conseil d'administration, ce n'est pas moi qui ai fondé. Vous comprenez? Ce n'était pas mon problème, je ne suis pas obligé. J'ai pas de reproche si je m'en occupe pas. Et pourquoi? Mais peut-être le Seigneur m'appelle à entrer dans cette communion-là pour bénir le collège Agapé. Voilà. Pour le bénir. Quand on est comptable, on décide de rien, etc. Mais moi, si je travaille pour quelqu'un, ce quelqu'un doit être béni. Sinon, je me demande à quoi ça sert que je fasse quelque chose. Je le perçois comme ça. C'est comme ça que ça m'est donné. Hein, j'ai travaillé pour des petites entreprises comme comptable, et puis ces entreprises étaient bénies financièrement pendant que j'ai travaillé. Moi j'étais heureux, je dis c'est bien Seigneur, ça me montre que je suis à ma place. Pourtant c'est pas moi qui faisais le travail, le comptable il fait pas le travail, mais on est bien placé pour savoir tout ce qui se passe. Et moi je me dis Seigneur, il faut que ce soit béni. Alors, voilà, j'ai quelquefois du mal à conclure, mais je vais conclure en vous invitant à nouveau, en disant, situez-vous dans l'Alliance, situez-vous dans les promesses de Dieu, ça c'est bien, c'est ce qu'on reçoit, situez-vous dans l'appel de Dieu, à quoi, qu'est-ce qu'il me demande. Ce n'est pas facultatif, j'ai quelque chose à donner. Ça ne servirait à rien qu'on soit sur cette terre si on n'avait pas quelque chose à donner. Parce que autant mourir tout de suite et ressusciter tout de suite et être avec le Seigneur. On a quelque chose à donner. Et ce quelque chose à donner, eh bien, ça comportera un sacrifice. Il ne faut pas se leurrer. Mais ce n'est pas si malheureux, le sacrifice. J'ai essayé de l'expliquer. Parce que ça crée une communion, ça crée un fruit. On n'est pas si malheureux. On n'est pas des esclaves à se faire fouetter, là, c'est pas le truc. Non, on est des serviteurs à donner et à voir le fruit. Et puis le signe. Dieu nous donne toujours quelque chose, nous donne un signe. Moi, je me dis, à la limite, on devrait servir Dieu, quel que soit le fruit, et même s'il n'y a pas de fruit. Mais je dis, Seigneur, on n'est pas comme ça, donne-moi un signe. Donne-moi quelque chose. Donne-moi. Et puis, il donne toujours le signe. Moi, j'ai du bonheur à prêcher. Bon. Eh bien, je m'en contente, ce bonheur me dépasse. C'est pas de la présomption, j'espère que c'est pas le cas. Il y a un bonheur, parce que c'est la parole de Dieu. Voilà, je suis un pauvre serviteur, et vous voyez, je n'ai pas le pouvoir d'égaler le niveau de la parole de Dieu, et je n'ai pas le pouvoir d'ouvrir vos cœurs pour que vous le receviez. C'est dingue de faire des choses pareilles. Mais, voilà, si Dieu bénit, c'est pourtant ce qui va se passer. La parole de Dieu est prêchée, et les cœurs s'ouvrent pour la recevoir. Seigneur, merci, parce que tu es grand, et nous sommes petits, mais tu viens habiter en nous. Le vase est d'argile, mais le trésor est sans prix. Et tu l'as mis dans le vase d'argile. Seigneur, merci pour cette église, parce qu'elle est le vase fragile dans lequel tu as mis ton trésor. Merci pour chacun et chacune de nos vies. Merci pour chacun et chacune des personnes qui sont ici, parce que leur vie est un vase fragile dans lequel tu as mis un trésor sans prix. Et Seigneur, apprends-nous. Seigneur, mets en nous ton feu qui consume. Oui, ton feu nous consume. Il consume des choses en nous. Il consume et il nous fait, mais il nous transforme. Ce n'est pas un feu qui détruit, c'est un feu qui transforme. Et Seigneur, nous t'aimons, nous aimons ta parole, nous aimons ton alliance, nous aimons ce Jésus serviteur qui nous a appelés à être serviteurs. Amen.